Bonjour à tous, bienvenue sur Antenne Doc. Je vous invite à vous poser quelques minutes pour passer un petit temps avec les fleurs, car c'est l'heure de l'émission Le Temps des Fleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe de plantes plutôt que d'une seule plante. Ce groupe rassemble principalement des arbres et ils ont l'avantage de ne pas beaucoup évoluer selon les saisons. Ce sont les conifères. En effet, ils sont globalement pareils au niveau physionomie. Ils ont à peu près la même tête, que ce soit en été comme en hiver. Et donc, vous aurez la possibilité de vous amuser à les reconnaître, même en hiver. Alors, les conifères, c'est le nom, on va dire, classique qu'on utilise. Mais ils ont un autre nom un peu plus scientifique. Ce sont des pinophytes. Ils font partie d'un gros groupe, le groupe des gymnospermes. Alors, gymnosperme, ça se divise en deux mots, gymno et sperme. Sperme, ça veut dire qu'ils produisent des graines. Donc, ils font partie de la grande famille des spermatophytes, toutes les plantes qui produisent des graines. Et gymno, ça veut dire que les ovules qui donnent des graines sont nues. Elles ne sont pas protégées dans un ovaire comme les autres plantes à fleurs. Donc l'ovaire va donner grosso modo un fruit après maturation. Donc ce groupe qui produit un ovaire et un fruit, c'est le groupe des angiospermes. Donc finalement, les ovules de nos conifères, eux, sont protégés dans des cônes femelles. Et donc ces ovules vont donner des graines que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de pignons de pin. Donc il ne faut pas confondre le terme de conifère et de gymnosperme, hein, pour ceux qui connaissaient les deux termes. En effet, la plupart des gymnospermes sont des conifères. Donc on va dire globalement, les conifères sont toutes ces plantes qui ont des feuilles en forme d'aiguille. Mais certains gymnospermes n'ont pas de cône, comme par exemple, on a le Ginkgo biloba, qui est un gymnosperme qui ne fait pas de cône. Il y a aussi les cycas, ce sont des plantes qui ressemblent un petit peu à des palmiers. Alors, conifères, forcément, ça vient du mot cône. Alors le cône, c'est une structure, hein, vous connaissez, qui regroupe en fait les organes reproducteurs de la plante. Ce n'est pas une inflorescence à proprement parler, comme je vous ai dit, car les gymnospermes n'ont pas de fleurs comme les angiospermes. On va dire que c'est plutôt une forme de fleur archaïque, parce qu'ils sont apparus au moment du carbonifère, donc ça remonte bien loin, bien longtemps avant, à moins 300 millions d'années environ, bien avant les plantes à fleurs. Donc si vous décortiquez un cône, vous verrez qu'il est constitué d'un axe court sur lequel s'insèrent en spirale des écailles ligneuses dures qui se recouvrent les unes sur les autres et qui protègent en fait en leur base un organe reproducteur. On peut aussi appeler ces cônes des strobiles en lien avec justement cette structure un petit peu spiralée. Alors, la plupart des conifères sont des espèces monoïques, c'est-à-dire qu'un individu, un arbre va porter les deux types de cônes, les cônes mâles et les cônes femelles. Le cône mâle, forcément, va donner du pollen. Ils sont beaucoup plus petits et éphémères et des fois, ils ont un petit peu une forme de chaton, hein, comme les chatons d'aulne ou de bouleau, par exemple. Par contre, les cônes femelles, eux, sont beaucoup plus gros et on peut les voir quasiment toute l'année dans les arbres. D'ailleurs, ce sont même eux que l'on ramasse souvent sur le sol. Ils sont forcément plus solides que les cônes mâles car ils assurent la croissance des futures graines. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on les appelle des pommes de pin, en lien avec leur forme un peu ronde, mais aussi par le fait qu'on puisse les récolter sur le sol comme des pommes. On les appelle aussi des pignes en occitan. Il y a aussi quand même quelques conifères qui ne font pas de cônes avec cette forme de pomme bien grosse et bien ronde, mais qui vont faire plutôt des baies ou des sortes de baies. Vous avez donc notamment le genévrier que vous connaissez et l'if. Alors on parle souvent de baies de genévrier, mais en fait ce ne sont pas des baies, ce sont des galbules, c'est-à-dire des petits cônes qui ont des écailles qui sont plus ou moins complètement soudées entre elles. Et l'if, quant à lui, produit un arille. Un arille, c'est une enveloppe charnue, rouge-rose, qui enveloppe la graine. Mais ce n'est pas un fruit, car il n'est pas issu d'un ovaire. Alors, ensuite, vous entendez sûrement souvent parler du terme de résineux. Alors, ce terme s'oppose très classiquement au terme de feuillu dans le langage forestier. Et en effet, il rassemble tous les conifères qui produisent de la résine. Alors cette substance, elle est excrétée par les feuilles et sous les écorces des troncs et des branches, souvent suite à un traumatisme, une infection parasitaire, des attaques d'insectes ou alors tout simplement une blessure mécanique suite à une incision. Donc cette résine va former en séchant une espèce de barrière protectrice contenant des éléments antimicrobiens qui luttent contre la pénétration des pathogènes. Mais elle sert aussi de répulsif aux herbivores. D'ailleurs, vous voyez bien que en général, les conifères sont très rarement, voire jamais, broutés. Et il faut le dire aussi que c'est leurs feuilles, hein, leurs aiguilles ne sont pas non plus ultra appétissantes. On a d'ailleurs même des feuilles qui sont un petit peu en forme d'écailles appliquées sur les rameaux et qui n'ont pas non plus grand intérêt pour nos herbivores. Alors, cette forme de feuille, elle n'est pas anodine d'ailleurs. C'est aussi une adaptation pour ces plantes pour résister contre le froid et la sécheresse et ainsi limiter l'évapotranspiration par les feuilles. Donc cette forme de feuille, ça va être un des critères principaux qu'on va observer pour pouvoir identifier les différentes espèces. Dans le monde, il y a un peu plus de 500 espèces de conifères. On en a un certain nombre que l'on peut retrouver en France et dans le Lot, mais la plupart ont été plantées pour la sylviculture ou pour l'ornementation dans les parcs et les jardins. Mais là, je ne vais vous parler que des espèces que l'on retrouve le plus régulièrement ou spontanément dans nos paysages. Dans le Lot, on en compte à peu près une petite dizaine qu'on va retrouver dans nos forêts ou sur nos cosses. Il faut savoir quand même que seul le genévrier est naturellement présent dans le Lot, que tous les autres ont été importés parce qu'en fait, l'air naturel d'origine de la plupart des conifères, elle se trouve dans l'hémisphère nord. Mais bon, on a déjà parlé du genévrier dans une autre émission parce que finalement, c'est un arbuste qui est très intéressant et qui méritait une émission à lui tout seul. Mais je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble, le genévrier. Donc, pour reconnaître les autres espèces de conifères, comme je l'ai dit, on va regarder leurs aiguilles, leur nombre, leur taille aussi, qui peut être différente. On va observer le tronc et les écorces. Les pins que l'on croise ici, globalement, ont leurs aiguilles qui sont assemblées par deux, contrairement à d'autres espèces qui vont avoir plutôt des bouquets de 3 ou 5 aiguilles, voire beaucoup plus. Bien, on va commencer par le genre des pins. Donc ce genre-là s'appelle pinus en latin. Vous avez déjà le pin parasol qui est, lui, assez facile à reconnaître à l'âge adulte avec sa tête en forme de parasol. Ses aiguilles font environ 8 cm de long et il a un très grand cône et même relativement large. Son cône peut dépasser les 20 cm et il contient aussi ses fameux pignons de pin. Et on l'appelle aussi le pin pignon ou pinus pinea en latin. Ensuite, le pin maritime, pinus pinaster, est très présent aussi sur notre territoire et on le reconnaît, lui, grâce à des cônes qui sont un peu plus petits, qui vont être entre 12 et 18 cm. Et ses feuilles, par contre, ses aiguilles, qui sont très longues, voire plus de 10 cm. Le pin noir laricio, lui, a des aiguilles entre 6 et 8 cm. Et on va le reconnaître grâce à son écorce aussi qui est très fine. Plutôt grisâtre et ses cônes sont petits, de 4 à 8 cm. Un autre pin qui domine beaucoup, qui est très présent, c'est le pin sylvestre qui a les plus petites aiguilles, elles sont inférieures à 6 cm. Il a une écorce qui rougit vers le sommet du tronc et ses cônes sont encore plus petits, entre 3 et 6 cm. Voilà pour les pins. Ensuite, vous avez un autre groupe dans lequel on va trouver le cèdre, les épicéas et les douglas. Et eux, ils ont un port de sapin. Leurs aiguilles sont aussi plus petites et disposées aussi différemment sur les rameaux. Celles du cèdre sont rassemblées en petits bouquets touffus de nombreuses aiguilles, tandis que celles de l'épicéa et du douglas sont déjà plates et disposées plus régulièrement de façon isolée tout autour et tout le long des rameaux. On peut aussi trouver de temps en temps, perdu dans les bois, un if. On l'appelle Taxus baccata. Il est d'un vert beaucoup plus sombre. Il a des petites aiguilles qui sont plates et elles sont disposées sur un seul plan le long des rameaux, contrairement à ceux qu'on a vus avant, qui ont des aiguilles insérées vraiment tout autour et dans tous les sens le long des rameaux. On voit aussi très souvent les cyprès aux abords des maisons, qui ont une forme de lance dirigée vers le ciel. Lui, il a ses feuilles qui sont petites, en forme d'écailles, qui sont plaquées sur les rameaux. Mais bon, là, je ne vais pas m'amuser à vous citer tous les conifères qui ornent les maisons, parce que sinon, on n'a pas fini. Bien, si on commence à parler des usages, de ce que peuvent nous apporter tous ces conifères, on commence par les usages culinaires. Vous verrez, c'est quand même relativement limité avec les résineux. Vous connaissez déjà forcément les pignons de pin. Alors le pin parasol produit les plus gros, mais ce n'est pas le seul à produire des pignons, puisque finalement un pignon est une graine et que tous les conifères produisent des graines. Ces pignons sont très riches en huile et ont une grande qualité nutritive. Ils ont un goût proche de l'amande et ils peuvent être consommés en apéritif ou dans les salades ou aussi même dans les côtés sucrés, pâtisserie ou en mélanger avec du chocolat, etc. Il est assez fréquent de les associer à des raisins secs dans des plats cuits en casserole, en terrine ou en tagine pour parfumer des volailles, des viandes, des poissons. Vous connaissez aussi peut-être l'usage de ces pignons de pin dans les recettes de pesto. Alors, des pignons de pin, on peut extraire aussi une huile qui est assez exceptionnelle, très riche en vitamine K, en vitamine B, et 5 fois plus riche en vitamine E que l'huile d'olive, qui donc lui procure un effet boostant de l'organisme, très utile pour le système immunitaire, et très bon aussi pour la peau, les ongles et les cheveux. On va l'utiliser dans les salades, sur des avocats, sur des poissons, des plats de viande grillée, etc. Bon, son petit inconvénient, c'est que c'est une huile qui rancit assez vite. Dans la cuisine, on peut retrouver aussi, vous le savez déjà, les baies de genévrier, qui ne sont pas des baies, comme on l'a dit, ce sont des galbules. Elles sont surnommées le poivre du pauvre et elles sont bien connues dans la recette de la choucroute, mais aussi dans d'autres plats assez lourds et assez gras, comme les plats de viande et les plats de gibier. Surtout des plats de gibier, parce qu'en fait, il faut vraiment une viande à goût assez fort pour rivaliser un peu avec celui des baies. Et là, en plus, on va pouvoir bénéficier de leurs propriétés digestives très intéressantes. Vous savez aussi peut-être qu'avec ces baies de genévrier, on peut faire le fameux gin ou le genièvre, mais aussi bien d'autres recettes qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans l'émission sur le genévrier. Vous avez aussi l'IF qui produit la rille, on en a parlé tout à l'heure. Cette pulpe qui englobe la graine est comestible. Mais elle a un goût plutôt fade, insipide. Elle n'a pas un goût forcément très intéressant. Par contre, il faudra faire attention à ne pas mordre la graine, mais plutôt à sucer cette pulpe, parce que la graine est toxique. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler de l'histoire des morts mystérieuses des chevaux de Corbillard. Vous savez, dans le temps, c'était les chevaux qui amenaient les cercueils au cimetière. Et il arrivait souvent que des chevaux meurent bizarrement après des enterrements. Et ils ont fini par comprendre en fait que pendant que l'enterrement se passait, les chevaux grignotaient tranquillement les haies du cimetière et que dans les haies, il y avait en fait des ifs. Donc c'est une plante qui est globalement très toxique pour nous et pour les animaux. Vous pouvez aussi utiliser les jeunes pousses de certains conifères qui sont très agréables. Alors les jeunes pousses d'aiguilles qui sont très agréables à manger crues. Alors pourquoi pas pendant vos balades, mais aussi les récolter pour mettre dans vos salades. Elles ont un goût très aromatique, légèrement acidulé, qui va aussi bien se marier avec le poisson. Donc pour ça, vous avez les jeunes pousses de sapin, de mélèze, mais surtout de l'épicéa qui sont les meilleures. J'ai aussi découvert une chose quand même plutôt surprenante en faisant des petites recherches pour l'émission. L'écorce intérieure, que l'on appelle le cambium, est apparemment aussi comestible. Alors, on va le prélever sur un arbre qui a été récemment abattu, dans l'idéal, puisque finalement, ça va être très nocif à l'arbre si on le récolte sur un pied vivant. Apparemment, ce n'est pas forcément le mets le plus agréable qui soit et le plus facile à préparer, mais ça peut changer si on veut un petit peu faire de la cuisine originale et où ça peut dépanner parce qu'apparemment c'est quelque chose de très nourrissant. Alors s'il est trop amer ou trop résineux, il faut le faire cuire dans plusieurs eaux, puis ensuite on va le faire sécher en bandes pour le conserver ou alors le réduire en poudre. Il y avait notamment les lapons qui ont apparemment l'habitude et pendant longtemps de faire du pain, de pain sylvestre, en mélangeant ou non cette poudre à de la farine. Mais bon, apparemment, il paraît que c'est quand même assez dur à mâcher. Mais pourquoi pas, si on veut tester. Alors bien sûr, pour finir sur l'alimentation, vous avez l'usage de la résine des sapins et de l'épicéa pour faire notamment ces fameux bonbons vosgiens que vous connaissez, ces bonbons au miel, qui sont très agréables à sucer, notamment utiles aussi pour la gorge. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des chewing-gums, même en prélevant directement la résine sur les arbres. Bon, c'est agréable au niveau du goût, mais c'est un petit peu collant dans les dents. Et la résine peut aussi aromatiser les bières et les liqueurs. Donc finalement, on peut trouver un intérêt plutôt non négligeable de ces résineux dans notre cuisine. Bon, je vais vous accorder une petite pause pour digérer un petit peu tout ça. Et pour vous réveiller, j'ai choisi une chanson du groupe Bathory, qui pour changer, c'est un groupe suédois de métal. Alors elle s'intitule Forever Dark Woods, qui parle de leurs forêts sombres de Scandinavie, qui elles sont largement dominées par les résineux. Bon, alors ça vous a plu? Vous êtes réveillé? On est prêt alors, on est prêt pour continuer dans l'émission Le temps des fleurs. Et on était en train de parler des conifères. On a vu juste avant les usages des conifères dans la cuisine. Maintenant, on va désormais passer aux bienfaits que ces arbres peuvent nous apporter pour notre santé. Alors, en herboristerie, on utilise essentiellement le pin sylvestre, en sachant toutefois que la plupart des autres espèces de conifères de la région peuvent être utilisées de manière plus ou moins interchangeable. Ici, c'est le pin sylvestre et le pin maritime qui dominent et que l'on peut utiliser assez facilement sans trop passer de temps à les chercher. Mais dans d'autres régions, on va utiliser plus les sapins, le mélèze ou l'épicéa. Ils sont tous intéressants et ils ont globalement les mêmes propriétés. On utilise différentes parties de ces plantes. Alors principalement, ça va être les bourgeons encore résineux et collants ou alors les bouquets de très jeunes aiguilles. Vous avez aussi forcément les graines, la résine et la sève excrètes des branches et des troncs et bien sûr l'huile essentielle qui est extraite des aiguilles. Alors, comme beaucoup de résineux, le pin sylvestre et le pin maritime agissent principalement dans le domaine de la respiration. On va surtout utiliser les jeunes aiguilles ou les bourgeons dans différentes préparations et de différentes façons. Alors, soit en infusion ou en inhalation, ou sous forme de teinture mère. Vous avez forcément aussi l'huile essentielle en aromathérapie. Et il y a aussi une pratique courante qui est la gémothérapie, donc c'est la macération des bourgeons dans un mélange de glycérine et d'alcool. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des sirops qui sont très agréables en bouche et très bons pour la gorge. Alors, ils sont un excellent antiseptique et anti-inflammatoire des voies respiratoires avec des propriétés antitussives, expectorantes et très utiles dans le traitement de l'asthme, des bronchites, des toux grasses et des laryngites. Il a aussi une action anti-inflammatoire contre les rhumatismes, l'arthrose, l'arthrite, mais aussi utile contre l'ostéoporose. On peut l'utiliser en géomothérapie ou en usage externe, comme un macérat huileux. Alors là, on va utiliser quand même avec une petite extraction alcoolique de la résine, puisque finalement la résine n'est pas miscible à l'huile ni à l'eau d'ailleurs, donc on est obligé d'ajouter un peu d'alcool. Ou alors, on peut aussi, en usage externe, faire des bains de vapeur résineuse, comme ils le font beaucoup dans les pays nordiques, un peu comme dans un sauna, où on va s'immerger dans une ambiance chaude et humide aux essences de résine. Alors, il sera utile aussi contre les infections des voies urinaires, comme les cystites, car c'est un bon diurétique, un bon draineur. D'ailleurs, on va utiliser cette propriété drainante pour purifier le corps aussi, car il va soutenir la sphère hépato-biliaire. Il aurait aussi des vertus en anti-vieillissement et anti-fatigue, et il est notamment utilisé dans les produits cosmétiques. Il peut soulager aussi les coups de soleil dans un macérat huileux. Alors, certaines espèces ont une bonne action aussi sur les troubles de la circulation veineuse, comme les varices, les jambes lourdes, et peuvent aussi traiter certaines affections cutanées, comme des mycoses, l'eczéma ou l'acné. Alors, bien sûr, on peut rappeler que les baies de genévrier sont très riches en vitamine C, donc idéales pour en cas de fatigue ou en cas de convalescence. Et c'est aussi une bonne plante très intéressante pour le système digestif et le soutien du foie. On a parlé tout à l'heure de la toxicité de l'IF. Mais sachez qu'on a synthétisé, il y a quelques années, une molécule très prometteuse dans la lutte contre le cancer. Et c'est une substance qui est extraite de ses feuilles. Bref, vous l'aurez bien vu, les conifères, tout confondus, sont dotés d'une multitude de vertus qui sont excellentes pour entretenir et améliorer notre santé. Mais bien sûr, comme pour toutes les plantes, il faut les utiliser avec modération. et notamment l'huile essentielle est contre-indiquée en cas de grossesse, d'allaitement, un petit peu aussi éviter sur les enfants de moins de 6 ans. Les personnes qui souffrent d'hypertension, de nervosité et de faiblesse rénale devront quand même l'utiliser avec grande modération et des conseils du médecin. Je vous invite aussi, si vous souhaitez utiliser l'huile essentielle en usage externe, à tester sur une petite partie de votre peau pour vérifier que vous n'êtes pas allergique. Bien voilà, là ce n'était que le volet médicinal et on n'a pas fini sur les intérêts de nos conifères. On va continuer. Vous savez que les résineux, ont, principalement les pins, ont été abondamment utilisés comme essence de reboisement à croissance rapide autour des années 1850 sous Napoléon III. Notamment pour pallier au grand défrichement après de l'époque médiévale et aussi après la Révolution, et aussi pour répondre à une nouvelle demande assez forte en bois d'œuvre. Et donc là, c'est notamment l'origine de la forêt landaise qui a été plantée essentiellement en pin maritime. Donc les conifères sont des bois d'œuvre très appréciés hein, pour différents usages industriels, notamment le Douglas hein, qui est très présent en France, qui a été introduit en Europe vers 1830 par Monsieur David Douglas. Les conifères donc font des bonnes charpentes, on fait aussi du parquet, des lambris. Nos poteaux téléphoniques partout au bord de route ben, sont aussi des conifères. On peut faire du meuble, de la pâte à papier, etc. Alors, un autre usage très utile et très fréquent, c'est on extrait la résine de pin, qu'on appelle aussi de la gemme, qui est exploitée sur certaines espèces, principalement le pin maritime. Cette pratique s'appelle le gemmage. Vous aurez d'ailleurs peut-être l'occasion d'observer en vous promenant de vieux pins qui portent une grosse cicatrice. On peut dire qu'il est un petit peu maintenant bourléifié, je ne sais pas comment on peut dire. Et cette cicatrice se trouve à hauteur d'homme. En fait, il s'agit d'une incision, hein, d'une grosse entaille qui a été faite à une époque dans les années 50. Et cette incision s'appelle la carre dans les Landes de Gascogne. Ensuite, la sève coule et elle est récoltée dans un petit pot en terre. Il est d'ailleurs possible des fois d'en trouver ça et là qui traîne dans les forêts, ça arrive. Alors, il y a une pratique qui consiste à pulvériser ces entailles avec de l'acide sulfurique pour empêcher l'obstruction des canaux résinifères et augmenter le rendement. Mais bien évidemment, vous vous en doutez que ce n'est un petit peu nocif pour l'arbre. Donc, sinon, en fait, il faut passer régulièrement, toutes les semaines, pour regratter l'entaille et restimuler la production de résine. Donc, la résine, elle est essentiellement exploitée pour produire de l'essence de térébenthine et de la colophane. Donc la térébenthine, vous savez, hein, c'est une huile essentielle. C'est un très bon solvant des graisses, des huiles et des cires. On va la retrouver dans les peintures, les vernis, les cirages, les insecticides. Mais aussi, on peut la retrouver dans les parfums. Elle est également conseillée pour éliminer la moisissure sur les meubles ou sur les cuirs. Les artistes connaissent aussi peut-être la térébenthine de Venise, hein, qui est extraite des mélèzes. La colophane, elle, est un résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine. Elle a aussi plein d'usages. On l'utilise notamment pour frotter la mèche des archers pour permettre la mise en vibration de la corde. On l'utilise aussi dans le domaine du sport pour absorber la sueur des doigts. Par exemple, en escalade, ben, c'est tout simplement le pof des grimpeurs. On en trouve aussi dans de la colle, dans des savons, dans certains cosmétiques et même dans des chewing-gums. Alors selon sa qualité, on va la trouver sous l'appellation de goudron de pin ou alors de pois. Et c'est utilisé comme une colle ou alors un enduit imperméabilisant. On l'utilisait notamment pour enduire des coques de bateaux et les cordages pour étanchéifier tout ça. On va aussi l'utiliser, on l'a utilisé pour enduire les torches, hein, puisque finalement c'est une substance bien inflammable. Vous avez peut-être l'occasion aussi d'entendre le terme de galipot, hein, qui est un petit peu synonyme au terme de pois. Alors évidemment, on pratique de moins en moins, voire quasiment plus, le gémage en France. Hein. Ça a décliné depuis les années 60 et totalement disparu de la forêt de Gascogne dans les années 90. C'était quand même une forêt qui était spécialisée dans le gémage. Maintenant, comme beaucoup de choses, la gemme est importée de l'étranger parce que ben, elle est moins chère, la main-d'œuvre est moins chère, etc. Je voulais aussi attirer votre attention sur l'enrésinement de nos forêts par ces plantations de monocultures de conifères qui ont tendance à remplacer nos arbres locaux comme le chêne et malheureusement bien souvent après des coupes rases. Alors, outre le fait que le paysage change, il y a aussi la problématique de la fragilité de ces peuplements hein, parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables aux intempéries, aux parasites et aux maladies. Il y a aussi cette notion de propagation des incendies de forêt, hein, puisque finalement, ce sont des arbres qui sont hautement inflammables. Si vous vous baladez en forêt de conifères, ben, vous avez sûrement eu l'occasion d'observer qu'il fait souvent très sombre dans les sous-bois et qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc finalement, on a une biodiversité assez faible. Il est assez fréquent d'être dans des forêts aussi très silencieuses. On n'entend pas souvent beaucoup d'oiseaux chanter dans ces forêts de résineux. En plus, les tapis d'aiguilles ne se décomposent pas, voire ou alors très peu, donc ne produit pas d'humus, donc appauvrit le sol de nos forêts. Si on est sur une forêt en pente, ben finalement, comme il n'y a rien qui pousse, ben ça lessive, ça ruisselle, et ça provoque de l'érosion du sol. Peut-être, pourquoi pas aussi, ça arrive, des glissements de terrain. Bon, il y a apparemment le Douglas qui sort un petit peu du lot, qui aurait ses aiguilles qui se décomposent mieux, mais qui provoque, avec son phénomène de nitrification, un autre petit souci, c'est que les nitrites s'associeraient à des sels d'aluminium du sol et ruisselleraient et seraient toxiques, en fait, dans les milieux aquatiques et auraient un impact notamment sur les salmonidés. Enfin bref, tout ça pour dire que selon moi, rien de tel qu'un peuplement mixte pour avoir un bel équilibre dans notre écosystème forestier. Bien, donc vous avez vu, il y a bien des usages pour nos conifères. Alors je pouvais quand même pas terminer cette petite émission sans parler de l'épicéa, hein, qui est considéré depuis bien longtemps comme l'arbre de vie. Et comme c'est de saison, ben, rappelez quand même que c'est notre sapin de Noël hein, et que c'est pour ça qu'on le retrouve planté ça et là, un peu partout dans la région et en France. Bon, son petit inconvénient, c'est que ben, il a tendance à perdre ses aiguilles hein, quand il est dans une maison bien au chaud, dans un pot, c'est pas terrible pour lui. Donc il est petit à petit remplacé depuis quelques temps par le sapin de Nordman. Eh bien, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça n'a pas été trop dense pour vous. J'ai pas tout dit. Mais enfin, en tout cas, ça vous donne une idée déjà un peu plus précise de ce que peuvent nous apporter tous ces conifères. Et ils ne nous apportent pas que du bois. Mais bon, pour finir calmement cette émission, j'ai choisi de vous lire un poème de Théophile Gautier, écrit en 1840. Qui s'intitule « Le pin des deux landes ». On ne voit en passant par les landes désertes, vrai Sahara français, poudré de sable blanc, surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eau verte, d'autres arbres que le pin avec sa plaie au flanc. Car, pour lui dérober ses larmes de résine, l'homme, avare bourreau de la création, qui ne vit qu'aux dépens de ceux qu'il assassine, dans son tronc douloureux, ouvre un large sillon. Sans regret, son sang qui coule goutte à goutte, le pin verse son baume et sa sève qui bout, et se tient toujours droit sur le bord de la route comme un soldat blessé qui veut mourir debout. Le poète est ainsi dans les landes du monde. Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde pour épancher ses vers divines larmes d'or. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Je vous laisse désormais vous préparer pour éventuellement aller vous faire une petite balade en forêt et pourquoi pas trouver des champignons, parce que en effet, il n'est pas rare du tout d'en trouver dans les boisements de résineux. Allez, profitez bien. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fin d'année et aussi un bon début d'année. Et aussi, pour vous rappeler que vous pouvez retrouver les émissions sur le site internet de Antenne Doc. Voilà, à bientôt. C'était Caroline de l'association Primula Plantes et Hommes.